En plus d'être épuisée par les heures d'effort qu'elle avait consacrées à Nell Ross, la veuve Smack était vieille, malade et plus troublée par le temps hors de saison qu'elle n'osait consciemment se l'avouer. Si bien que lorsque Tim frappa timidement à sa porte, à la nuit tombée, ce qui lui demanda bien du courage, elle se réveilla sur le champ. Quand elle alluma sa lampe et découvrit le petit garçon qui osait la déranger, elle sentit son cœur se serrer. Si la maladie dégénérative qui l'affligeait ne l'avait pas empêchée de pleurer, elle aurait versé quantité de larmes à la vision de ce visage empreint d'une résolution aussi absolue que stupide.
« Tu es décidée à retourner dans la forêt, » déclara-t-elle.
« Si fait, »
répondit Tim à voix basse,
« en dépit de mes mises en garde. »
« Si fait. »
« Il t'a fasciné. Qu'est-ce qui l'a motivé? L'appât du gain? Non, pas lui. Il a capté un éclat dans les ténèbres de ce coin perdu et oublié de tous, voilà tout, et il n'aura de cesse qu'il ne l'éteigne. »
Saïsmak, il m'a montré quelque chose en rapport avec ta mère, je l'intuite.
Il est passé maître dans l'art de manipuler les gens. Nul n'est plus doué que lui. Il possède des clés magiques pour ouvrir leur cœur. Je ne puis t'arrêter avec des mots, je le sais, car il me suffit d'un œil pour déchiffrer ton visage. Et je ne puis t'arrêter par la force, je le sais, et tu le sais aussi. Sinon, pourquoi serais-tu venu à moi pour implorer mon aide ?
À ces mots, Tim baissa les yeux en signe de gêne. Mais sa résolution demeura intacte, et elle comprit qu'elle l'avait perdu. Sans doute se savait-il perdu lui aussi, ce qui était encore plus grave.
« Que veux-tu exactement ? » lui demanda-t-elle.
« Que vous donniez le mot à ma mère, je vous prie. Dites-lui que je suis parti dans la forêt et que j'en reviendrai avec un remède pour lui rendre la vue. »
Saïsmak demeura muette durant plusieurs secondes, se contentant de le fixer à travers son voile. Grâce à la lueur de sa lampe, Tim pouvait détailler plus qu'il ne l'aurait souhaité les décombres de son visage. Finalement, elle dit
« Attends ici. Ne t'enfuis pas sans me prévenir, de crainte que je te considère comme un froussard, et fais preuve de patience, car tu sais que je suis lente. »
Quoique pressé de se mettre en route, il lui obéit. Les secondes lui semblaient des minutes, les minutes des heures. Mais enfin elle revint vers lui.
« Maintenant je suis sûr que tu es décidé à partir, » lui dit-elle.
Le blessant bien plus qu'elle ne l'aurait fait en lui fouettant la face avec une cravache. Elle lui tendit sa lampe.
« Pour éclairer ta route, car tu n'y as pas pensé. »«
Merci, Sai. »
Elle lui tendit un sac de coton.
« Une miche de pain, ce n'est pas grand-chose et elle est un peu rassise, mais je ne peux mieux faire. »
Comme il avait la gorge trop serrée pour la remercier, Tim se la tapota à trois reprises, puis il tendit la main. Mais elle garda son sac par-devers elle un instant.
« Il y a autre chose là-dedans, Tim. Cela appartenait à mon frère, qui a péri dans la forêt sans fin il y a près de 20 ans. Il l'avait acheté à un colporteur, et quand je l'ai traité d'idiot et l'ai accusé de s'être fait rouler, il m'a amené dans un pré pour me montrer comment ça marchait. Par les dieux, le beau camp que ça faisait, j'en ai eu les tympans tout sonnés. »
Et elle sortit du sac un pistolet. Tim ouvrit de grands yeux étonnés. Il avait vu des images de cette arme dans les livres de la veuve, et le vieux d'Estrie avait accroché dans son parloir une gravure représentant ce qu'il appelait une carabine. Mais jamais il n'aurait cru en voir un en vrai. L'arme mesurait 1 pied de long. Sa crosse était en bois, ses canons et sa détente en métal. Au nombre de 4, ses canons étaient maintenus ensemble par des bandes de cuivre. Leur gueule était carrée.
« Il a tiré 2 coups avant de me le montrer, et plus jamais il ne s'en est servi, car il est mort peu après. J'ignore si cette pétoire est en état de marche, mais je l'ai tenue au sec et graissée et nettoyée une fois l'an, le jour de son anniversaire. Elle est chargée et le sac contient 5 autres projectiles. On appelle cela des balles.
« Des balles ?»
demanda Tim en plissant le front. « Non, des balles. Tiens, regarde. » Elle lui passa le sac pour avoir les mains libres, puis se tourna de côté. « On ne doit jamais pointer une arme sur quelqu'un, sauf si on a l'intention de le blesser ou de le tuer, » m'a dit Joshua. « Car une arme à feu a un cœur impatient, » ajoutait-il. « Impatient ou bien maléfique. Après toutes ces années, je ne m'en souviens guère. Il y a un petit levier sur le côté, par là, je crois bien. »
On entendit un déclic et l'arme sembla se briser en deux entre la crosse et les canons. La veuve montra à Tim 4 carrés de cuivre dans les chambres. Lorsqu'elle en extirpa un de son logement, il vit qu'il s'agissait de la base d'un projectile, d'une balle.
« Cette douille reste en place après le coup de feu, » expliqua-t-elle. « Il faut la sortir avant de charger une autre balle, tu vois ?»«
Si fait. »
Comme il avait envie de manipuler ses balles, comme il avait envie de prendre en main le pistolet, de presser la détente et d'entendre la détonation.
La veuve releva les canons. On entendit de nouveau un déclic, puis lui montra la crosse. Il découvrit 4 petits leviers qu'on devait actionner avec le pouce. « Ce sont les percuteurs. Chacun d'eux agit sur un canon, si tant est que cette saleté fonctionne encore. Tu vois ?»«
Si fait.
C'est un 4 coups. D'après Joshua, on ne risque rien tant que les percuteurs ne sont pas enclenchés. »
Elle vacilla sur ses jambes comme prise de vertige.
« Qu'est-ce qui me prend de donner une arme à un enfant ? Un enfant qui va s'enfoncer dans la forêt sans fin en pleine nuit, et ce pour y retrouver un démon. Mais je n'ai pas le choix, hein ?»
Puis, comme si elle parlait toute seule,
« Il ne s'attendra pas à ce qu'un enfant soit armé, hein ? Peut-être qu'il y a encore un peu de blanc en ce monde. Peut-être qu'une de ces vieilles balles trouvera son cœur noir. Range ça, veux-tu ?»
Elle lui tendit l'arme, la crosse en avant. Il faillit la lâcher en la prenant. Qu'une si petite chose soit aussi lourde, cela ne laissait pas de l'étonner. Et à l'instar de la baguette du collecteur lorsqu'il l'avait passée au-dessus du seau, elle semblait vibrer.
« Les autres balles sont enveloppées dans du coton. Cela t'en fait 9 en tout. Puisse-t-elle frapper juste et puissais-je ne pas être maudite une fois dans la clairière pour te les avoir données ?»«
Merci, merci, Sai. »
Ce fut tout ce qu'il put lui dire. Il remit l'arme dans le sac. Elle se prit la tête entre les mains et partit d'un rire amer.
« Tu es un idiot et je suis une idiote. Au lieu de te donner la pétoire de mon frère, j'aurais dû attraper mon balai pour te bastonner. »
Nouveau rire amer.
« Mais je ne suis qu'une vieille femme et n'en ai plus la force.
Vous préviendrez ma maman demain matin, car je vais aller jusqu'au bout de la piste du bois de fer.
Si fait, je n'y manquerai pas, quitte à lui briser le cœur. »
Elle se pencha vers lui, faisant frémir l'ourlet de son voile.
« Y as-tu bien réfléchi ? Oui, je le vois sur ton visage. Pourquoi fais-tu cela, sachant l'épreuve que tu vas infliger à son âme ?»
Tim rougit du menton à la racine des cheveux, mais il tint bon. En cet instant, il ressemblait beaucoup à son défunt père.
« Je veux lui rendre la vue. » Il m'a laissé suffisamment de sa magie pour me montrer comment faire.
C'est de la magie noire, et il ne profère que des mensonges. Des mensonges, Tim Ross.
C'est vous qui le dites ?
Il eut un mouvement de menton qui rappelait Jack Ross.
Mais il ne m'a pas menti à propos de la clé. Elle a ouvert la bonne serrure. Et il ne m'a pas menti à propos de la raclée. Ma maman l'a bien subi. Il ne m'a pas menti quand il m'a dit qu'elle était aveugle, car elle a bien perdu la vue. Et quant à mon pas, vous le savez aussi bien que moi.
Oui,
fit-elle, avec un accent de la campagne que Tim ne lui avait jamais connu.
Oui, Et chacune de ces vérités avait son revers. Elles t'ont blessé et piégé tout à la fois. »
Il resta quelques instants sans répondre, se contentant de baisser les yeux pour contempler ses bottes bien usées. La veuve commençait à reprendre espoir malgré elle lorsqu'il releva la tête, la regarda bien en face et lui dit
« Je laisserai Bitsy attachée en amont de la concession Cossington-Marchley. Je ne veux pas l'abandonner dans le chicot où j'ai retrouvé mon pas, car un pookie a fait son nid dans les arbres. Quand vous irez voir Mama, vous pourrez demander à Cy Cossington de ramener Bitsy à la maison ?»
Elle rendit les armes. Une jeune femme n'aurait pas renoncé si aisément, mais elle n'était plus toute jeune.
« Autre chose ? Deux autres. Je t'écoute. Vous voulez embrasser ma mama pour moi ?
Oui, et avec joie. Et ensuite ?
Voulez-vous me donner votre bénédiction ? »
Elle médita un instant, puis fit non de la tête.
« En guise de bénédiction, tu as la pétoire de mon frère. Je ne peux mieux faire. »«
Alors, cela devra me suffire. »
Il fit une révérence et porta le poing à son front, puis redescendit du perron pour rejoindre sa fidèle petite mule. D'une voix presque inaudible, presque, mais pas tout à fait, la veuve Smack lui dit
« Au nom de Gan, je te bénis, et laissons le cas œuvrer. »
La lune était couchée lorsque Tim mit pied à terre et attacha Bitsy à l'un des buissons bordant la piste du bois de fer. Il s'était bourré les poches d'avoine avant de partir, et il la répandit sur le sol comme le collecteur l'avait fait pour son cheval la nuit précédente.
« Reste ici, et Cy Cossington viendra te chercher demain matin, »
lui dit-il. Il vit en esprit Peter le costaud découvrant le cadavre de Bitsy, avec au ventre une plaie ouverte par quelque prédateur nocturne, celui-là même qu'il avait suivi lors du passéar de la nuit dernière peut-être. Mais avait-il le choix ? Bitsy était une bonne mule, mais elle n'était pas assez maligne pour rentrer toute seule à l'écurie, même si elle connaissait par cœur la piste du bois de fer.
« Tout ira bien, »
dit-il en lui caressant le museau. Mais en était-il bien sûr ? Il songea que la veuve avait sans doute raison sur toute la ligne pour chasser aussitôt cette idée de sa tête.
« Il m'a dit la vérité sur le reste, alors il m'a dit la vérité sur ceci. »
Lorsqu'il eut avancé de trois roues, il le croyait dur comme fer. Il n'avait que 11 ans, ne l'oubliez pas. Il ne vit pas de feu de camp cette nuit-là. En lieu et place de la lueur orangée du bois en train de brûler, Tim aperçut un éclat vert et froid en arrivant au bout de la piste du bois de fer. Un éclat fugace, mais têtu, suffisamment fort pour projeter devant lui des ombres mouvantes et serpentiformes. La piste, à peine visible, car définie par les seules traces de la carriole du Grand Ross et du Grand Kels, obliqué sur la gauche pour éviter un antique arbre de fer dont le tronc était plus volumineux que toutes les maisons de l'arbre. Une centaine de pas plus loin, elle débouchait sur une clairière. C'était là que se trouvait l'écriteau. Tim n'avait aucune peine à le déchiffrer, car la cigue voltait au-dessus de lui, battant des ailes à une telle vitesse qu'elles en devenaient invisibles. Il s'approcha à pas de loup, oubliant tout le reste, tant cette vision le fascinait. La cigue mesurait à peine 4 pouces. Elle était nue et très belle. Il n'aurait su dire si son corps était vert, car la lueur qui la baignait était éblouissante. Mais il discernait sans peine son sourire aguichant et savait qu'elle le voyait nettement, bien que ses yeux en amande soient dénués de pupilles. Ses ailes émettaient un bourdonnement continu. Du collecteur, il n'y avait aucun signe. La cigue virevolta, comme pour se jouer de lui, puis disparut dans un buisson. Affolé, Tim imagina ses ailes fragiles déchiquetées par les épines, mais elle émergea intacte pour monter en chandelle à 50 pieds d'altitude, voire davantage. Elle frôlait les branches basses des arbres de fer pour fondre aussitôt droit sur lui. Elle avait ramené les bras dans le dos, telle une plongeuse piquant une tête dans l'eau. Il se baissa et l'entendit rire lorsqu'elle lui frôla les cheveux. On aurait dit une clochette résonnant dans le lointain. Il se redressa prudemment et la vit qui revenait vers lui en faisant des cabrioles dans l'air. Son cœur battait à tout rompre. Jamais il n'avait vu quelque chose d'aussi beau. Elle survola la barre transversale et grâce à son éclat, il distingua une piste mal débroussaillée qui s'enfonçait dans la forêt sans fin. Elle leva le bras, lui faisant signe de le suivre de sa main rayonnante d'un feu vert. Fasciné par sa beauté d'outre-monde et la douceur de son sourire, il n'hésita pas un instant et passa sous la barre sans accorder un seul regard à l'avertissement rédigé par son défunt père. « Voyageur, prends garde !» La cigue volta jusqu'à ce qu'il s'approche d'elle à la toucher. Puis elle fila au-dessus du sentier. Elle s'immobilisa une nouvelle fois pour lui lancer un sourire. Ses cheveux cascadaient sur ses épaules, tantôt voilant ses petits seins parfaits, tantôt les dévoilant sous l'effet de la brise née de ses ailes battantes. Lorsqu'il la rejoignit, Tim s'enhardit à lui poser une question, mais à voix basse, de crainte de crever ses tympans miniatures en parlant trop fort.
« Où est le collecteur ?»
En guise de réponse, il eut droit à un rire tintinabulant. Ramenant les genoux contre le torse, elle effectua deux roulades dans les airs, puis s'en fut, non sans s'être assurée qu'il continuait de la suivre. Et c'est ainsi qu'elle mena le garçon captivé dans les profondeurs de la forêt sans fin. Tim ne vit même pas que le sentier s'effaçait sous ses pieds et qu'il s'avançait entre de gigantesques arbres de fer que nul homme n'avait vus depuis des lustres et des lustres. Pas plus qu'il ne remarqua que leur senteur douce amère s'effaçait peu à peu devant la puanteur de la végétation pourrie et des eaux stagnantes. Les arbres de fer se firent plus rares. Il y en avait certes devant lui, sur des lieux à la ronde. Mais Tim entrait à présent dans le vaste marécage qu'on appelait le Fagonard. La cigue le gratifia d'un nouveau sourire, puis s'envola. Son éclat se reflétait à présent sur des eaux boueuses. Une créature, ce n'était pas un poisson, en fendit la surface, la fixa d'un œil globuleux, puis s'immergea à nouveau. Tim ne remarqua rien. Il ne voyait que l'îlot flottant qu'elle survolait à présent. Il allait devoir faire le grand saut, mais il n'était pas question d'abandonner sa quête. Elle l'attendait. Il prit son élan et franchit l'obstacle de justesse. Cette lueur verte faisait paraître les choses plus proches qu'elles ne l'étaient en réalité. Il moulina des bras pour ne pas tomber. La cigue faillit le déséquilibrer, sans le faire exprès, il en était sûr. Elle voulait jouer, voilà tout. En décrivant des cercles autour de sa tête, l'aveuglant de son aura et l'assourdissant de son rire cristallin. Il faillit bien périr. Il ne vit pas la tête triangulaire qui émergeait des eaux boueuses. Les yeux globuleux qui le dévisageaient, la gueule criblée de crocs qui s'ouvraient déjà pour l'engloutir. Mais il était jeune et agile. Il recouvra son équilibre et se planta solidement sur le sol herbeux.
« Comment t'appelles-tu »
demanda-t-il à la fée étincelante qui s'était éloignée de quelques pas. Bien qu'elle soit capable de rire, il ne savait pas si elle était douée de la parole. Et le cas échéant, si elle s'exprimait dans le haut parlé ou dans le bas langage. Mais elle lui répondit, et il songea que son nom était le plus beau qu'il ait jamais entendu, parfaitement assorti à sa beauté éthérée.
« Armanetta !»
s'écria-t-elle, et elle reprit son envol, partant d'un nouveau rire et l'aguichant d'une nouvelle œillade. Il la suivit dans les profondeurs du Fagonard. Parfois, les îlots flottants étaient suffisamment proches pour qu'ils passent de l'un à l'autre sans problème, mais à mesure qu'il avançait, il constata qu'il devait sauter de plus en plus souvent et de plus en plus loin. Toutefois, Tim ne s'en effrayait pas. Au contraire, Il était pris d'un vertige euphorique qui le faisait rire chaque fois qu'il trébuchait. Il ne vit pas les formes sinueuses qui le suivaient, fendant les eaux noires en silence, telles des aiguilles à coudre dans la soie. Il y en eut d'abord une, puis trois, puis une demi-douzaine. Quand des insectes le piquaient, il les chassait sans vraiment sentir leur dard, maculant de sang son visage et ses bras. Il ne remarqua pas les silhouettes trapues, mais bipèdes qui le suivaient sur son flanc, le fixant de leurs yeux luisants. Plusieurs fois, il tenta d'attraper Armanetta, lui criant « Viens, je ne te ferai pas de mal !» Mais elle lui échappait toujours, lui filant entre les doigts pour, l'instant d'après, lui effleurer les joues de ses ailes. Elle tournoya au-dessus d'un îlot plus large que les autres. Comme rien ne poussait dessus, Tim conclut qu'il devait s'agir d'un rocher, le premier qu'il ait vu dans cette partie du monde, où les choses semblaient liquides plutôt que solides.
« C'est trop loin !»
lança-t-il à Armanetta. Il chercha du regard une pierre émergeant de l'eau, mais n'en vit aucune. S'il voulait parvenir à l'étape suivante, il devait le faire d'un seul bond. Et la cigue l'y encourageait du regard.
« Je dois pouvoir y arriver, » se dit-il. « En tout cas, elle a l'air de le penser. Sinon, pourquoi me ferait-elle signe de sauter ?»
Comme l'îlot sur lequel il se trouvait était trop petit pour qu'il prenne son élan, il fit une flexion et se détendit d'un coup, d'un seul, pour bondir de toutes ses forces. Il s'envola au-dessus de l'eau, vit qu'il allait rater sa cible, pas de beaucoup, et tendit les bras. Il atterrit sur le torse et son menton heurta le sol avec une telle violence que des étoiles envahirent son champ visuel déjà saturé de lumière féerique. Il disposa d'un instant pour se rendre compte que ce n'était pas de la roche qu'il agrippait des deux mains, à moins que la roche n'ait le pouvoir de respirer. Puis un sourd grondement monta au-dessous de lui, suivi d'une série d'éclaboussures qui achevèrent de l'arroser d'une eau tiède et grouillante d'animalcules. Il grimpa à toute allure sur le rocher qui n'en était pas un, conscient d'avoir perdu la lampe de la veuve, mais pas son sac. S'il n'en avait pas noué le bout à son poignet, il aurait pu lui dire adieu. Le coton était mouillé, mais pas vraiment trempé, du moins pas encore. Puis alors qu'il sentait quelque chose s'approcher dans l'eau, le rocher se souleva sous ses pieds. Il se tenait sur le crâne d'une créature qu'il avait surprise en train de prendre un bain de boue. Du coup, elle s'était réveillée de méchante humeur. Elle poussa un rugissement et une flamme vert et orange surgit de sa gueule pour embraser les roseaux émergeants du marécage.
« Il n'est pas gros comme une maison, non, probablement pas. » « Mais c'est bel et bien un dragon, et, oh Dieu, je suis perché sur sa tête !»
Le souffle du dragon éclaira les environs. Tim vit les roseaux ployés sous le passage des créatures qui l'avaient suivi et qui s'empressaient de fuir. Il vit aussi un autre îlot. Il était un peu plus large que ceux qu'il avait déjà foulés avant de gagner sa présente et fort périlleuse position. Tim ne prit pas le temps de s'inquiéter d'un éventuel poisson cannibale qu'il aurait guetté, ni de penser qu'il risquait de se noyer ou d'être grillé par le souffle du dragon s'il parvenait à son but. Poussant un cri inarticulé, il bondit. Jamais jusque-là il n'avait sauté aussi loin. En fait, il faillit sauter trop loin. Il dut s'agripper à des touffes d'herbe pour ne pas basculer dans l'eau de l'autre côté de l'îlot. C'était une herbe coupante qui lui entailla les doigts. Elle était par endroits encore fumante, car le souffle du dragon, irrité, ne l'avait pas épargné. Mais Tim tint bon. Il refusait de penser au sort qui l'attendait si jamais il se retrouvait dans le marigot. Non que l'îlot ait constitué un refuge sûr. Il se redressa sur ses genoux et se tourna vers l'endroit d'où il venait. Le dragon... C'était une femelle, car son crâne était orné d'une petite crête rose, avait entièrement émergé et se dressait sur ses pattes postérieures. S'il n'était pas gros comme une maison, il l'était bien plus que Blackie, l'étalon du collecteur. Il battit des ailes à deux reprises, projetant des gouttes d'eau dans toutes les directions et suscitant une brise qui décolla les cheveux de Tim de son front. Le bruit lui évoqua des draps suspendus à une corde à linge et claquant au vent. Le dragon femelle braquait sur Tim des yeux injectés de sang. Des filets de bave bouillante gouttaient de ses mâchoires pour tomber dans l'eau en grésillant. Tim aperçut des ouïes entre les plaques de son torse, par lesquelles l'air venait alimenter la fournaise nichée dans ses entrailles. Il eut le temps de se dire que le bobard raconté par son beau-pas allait devenir vérité, ce qui était bien étrange, voire carrément drôle. Sauf que c'était lui qui allait périr incinéré.
« Les dieux doivent bien rire, » songea-t-il.
Et dans le cas contraire, alors, c'était le contrôleur qui se marrait. Sans réfléchir à ce qu'il faisait, Tim tomba à genoux et tendit les mains vers le dragon, le sac de coton toujours pendu à son poignet droit.
« Je vous en prie, madame, »
s'écria-t-il,
« ne me brûlez pas, s'il vous plaît, car on m'a égaré et j'implore votre pardon. »
Le dragon continua de le fixer durant plusieurs instants, et ses ouïes ne cessèrent de palpiter. Sa bave, surchauffée, grésillait toujours en tombant dans l'eau. Puis, lentement, pouce par pouce, il l'aurait juré, le dragon s'immergea de nouveau. Finalement, seul le sommet de son crâne resta visible, ainsi que ses horribles yeux fixes. En les voyant, Tim se dit qu'il se montrerait moins indulgent si on interrompait son repos une nouvelle fois. Puis ils disparurent, et Tim n'eut plus devant lui qu'une masse ayant toutes les apparences d'un rocher.
« Armanetta ?»
Il chercha un peu partout son éclat vert, sans vraiment espérer le repérer. Elle l'avait abandonné dans les profondeurs du Fagonard, sur le tout dernier îlot flottant, qu'il ne pouvait quitter qu'en sautant à nouveau sur le dragon. Son œuvre était accomplie.
« Que des mensonges !»
murmura Tim. La veuve Smack ne s'était pas trompée.